Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bienvenue, nous sommes le mercredi 21 novembre. L'équipe est au complet pour 30 minutes de chronique de son. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, on développe tout de suite ce sommaire. À toi Marine, l'honneur, c'est
alors,
souvent le cas.
Donc moi je vais vous proposer un petit blind test, c'est à l'occasion de la sortie, enfin c'est déjà sorti depuis mercredi dernier, du film de Sandrine Bonner, J'enrage de son absence, que vous pouvez toujours voir au Diagonale. Donc à l'occasion de cette sortie, je vous propose un blind test autour des films réalisés par les acteurs devenus réalisateurs. Je suis un petit peu confuse ce matin.
Non, c'est ça.
Et je vous parlerai par la suite de La Chasse de Thomas Vinterberg.
Et puis toi Manu, deux films différents.
Oui, je vais vous parler donc du dernier film d'Olivia Sayas, Après mai, et puis d'un film culte édité récemment chez Carlotta, Schizophrénia, Angst en autrichien.
Film préféré de Gaspard Noé. Et puis moi, alors si on a le temps, en fin d'émission, Comme des frères, premier film de Hugo Gélin, une comédie qui a été présentée au Cinémed. Il y aura End of Watch et on commence avec Thérèse Desqueyroux de Claude Miller.
Cinérama, Cinérama sur Divergence FM.
Film posthume de Claude Miller bénéficiant d'une belle promotion puisqu'il s'agit de la plus grosse sortie de la semaine. Thérèse Desqueyroux nous plonge à la fin des années 20 dans les Landes, au cœur de la bourgeoisie locale qui compte ses hectares de pin comme un propriétaire parisien compterait ses immeubles. Ce qu'on possède détermine ce qu'on possédera. Quand on pense à un mariage, on associe aux mariés leur surface en pin.
Vous savez Bernard, je vous épouse aussi pour vos pins. J'ai pas honte de le dire. Vous pensez que c'est mal?
Sûrement pas.
Mon père dit que j'ai la propriété dans le sang. Mais vous aussi, vous êtes amoureux de mes pains. C'est normal.
Il y a tant d'idées dans cette jolie tête.
Des idées fausses?
Quelques-unes, comme tout le monde. Quelques idées fausses.
À vous de les détruire.
Thérèse pense au pain quand elle épouse le grand Bernard en devenant Madame Desqueyroux, mais pense surtout par elle-même dans un temps où on se sacrifie encore pour la famille et où la femme n'a pas grand mot à dire. Les hommes vont à la chasse par l'argent, les femmes s'occupent mais gardent leur rang. Alors Thérèse n'est pas comme les autres femmes de cette bourgeoisie landaise, chacun la sait frondeuse et éclairée. Tout ce qu'elle fait pour la famille lui coûte. Son mari, elle ne l'aime pas, sa chasse, son appétit, sa raideur la plonge dans le tourment. Et quand sa jeune belle-sœur, avec qui elle est très liée, rencontre un amour passionnelle, immédiatement condamnée par la Sainte Famille, eh bien elle bascule au point de commettre un acte qui aurait pu être irrémédiable, avec des conséquences fâcheuses pour elle. Adapté d'un roman de François Mauriac qui, quelques années après, remportera le Nobel de littérature, Thérèse Desqueyroux est une description des mentalités bourgeoises, donc de la province, mais aussi le sort d'une femme en avance sur son temps, partagée entre son sacrifice pour la famille et son désir de liberté. Alors si le roman est construit comme un flashback, le parti pris de Claude Miller a été de prendre l'histoire de Thérèse dans sa continuité. La forme est donc classique et on aurait pu appeler cela chronique de la bourgeoisie landaise. Mais l'essentiel pour Claude Miller a été de se focaliser sur Thérèse et de nous laisser entrevoir ses scrupules, ses peurs, ses colères sourdes et ses envies. Audrey Tautou incarne parfaitement ce personnage rongé par ses pensées intimes et nous laisse entrevoir le décalage entre les conventions de son époque et le désir de s'en émanciper. Petit à petit, on passe d'une femme qui a quelques sourires, de l'audace à une femme qui finit recluse, mise au banc par la Sainte Famille pour s'être opposée un peu trop radicalement à un destin trop étriqué pour elle.
Laissez-moi disparaître. C'est tout ce que je demande.
Taisez-vous. Vous osez avoir un avis? Mais maintenant, vous n'avez plus qu'à écouter. Recevoir mes ordres. C'est moi qui décide de tout. Vous, vous obéissez. Sinon...
Sinon quoi? Vous avez témoigné en ma faveur. Vous ne pouvez pas vous déjuger, on vous accuserait de faux témoignages.
D'abord, je tiens à vous préciser que j'agis au nom de la famille. Si j'ai trompé la justice, comme vous dites, c'est pour son bien. Le bien de notre famille. Voilà. Moi, je ne compte pas. Il est primordial qu'on nous croit unis. Je vais donc m'installer ici, près de vous, le temps qu'il faudra. Il va sans dire que nous ferons chambre à part. Vous prendrez vos repas dans la vôtre, servi par Baliante.
Et tante Clara?
Est-ce que je peux parler sans être interrompue, Thérèse? Tout cela est déjà suffisamment pénible. Hormis votre chambre, l'accès de toutes les autres pièces de la maison vous sera interdit. On nous verra le dimanche à la messe ensemble et le jeudi au marché. Ensemble. Marie, elle restera à Saint-Clair. Et puis ma mère l'emmènera à Biarritz avec Anne. On trouvera une raison de santé. Vous ne pensiez tout de même pas qu'on allait vous laisser la petite? Après moi, c'est elle qui arrêtera des pains.
Parce que vous croyez que c'est à cause des pains?
Il y a une autre raison.
Avec Audrey Tautou, Gilles Lelouch est parfait dans le rôle du mari, un être massif, aimant, bien que maladroit, et qui, au contraire de sa femme, préfère la simplicité de la chasse à la palombe, à la lecture des nourritures terrestres d'André Gide. Anaïs Desmoustiers est une jeune femme fiévreuse, un petit animal qui devra être maté par la famille pour avoir succombé à la passion dans un monde où l'argent, et pas seulement le rang, sont les seuls critères du mariage. Alors réunir Mauriac et Miller, ça n'était pas évident, mais le contrat est plutôt bien rempli, donc film posthume, hein, il est mort peu après la fin du montage, me semble-t-il, Claude Miller. Et il était déjà souffrant pendant ce tournage. Thérèse Desquerou est projetée à peu près partout sur Montpellier.
Vous connaissez toujours les raisons de vos actes. Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie?
Sur Divergence FM.
Après mai, Olivier Assayas reste un mystère pour moi. Ses films m'ont rarement satisfait entièrement, alors que je tiens en haute estime ce filmeur hors pair. À chaque fois que je reste bluffé par ses mises en scène énergiques, modernes, transcendées souvent par des idées plastiques vraiment novatrices, assez proches de gens comme Wong Kar-wai. Bien que ratés et boursouflés, même des films comme Boarding Gate ou Dream Lover sont traversés par une soif de filmer, une puissance cinématographique indéniable.
Il ne faut pas avoir l'âme fort élevée pour comprendre que tous nos plaisirs ne sont que vanité. Entre nous et le ciel, l'enfer ou le néant, il n'y a donc que la vie, qui est la chose au monde la plus fragile.
La politique, c'est pas un jeu. Si on se base pour la classe ouvrière. Ça t'arrange parce que t'es extérieur au vrai combat.
Non, t'as tort. J'ai des convictions. La peinture, la révolution.
Tu parles en artiste. L'art, c'est la solitude. C'est un choix. Mais c'est pas le mien.
J'ai vu que tu lisais les habits neufs du président Mao.
Il dit la vérité sur les massacres de la révolution culturelle.
Les acquis de la révolution culturelle font peur aux impérialistes américains et soviétiques. T'es jeune, mais tu devrais faire attention à tes lectures. Does music love the river?
Dans le contexte actuel, le militantisme ne mène à rien.
Le moment de l'action est venu. Nous devons être les nouveaux résistants.
Ils ont des convictions, ils vont jusqu'au bout. Et toi, tu fais mieux qu'eux.
Si ça tourne mal, je risque quoi?
Le problème, c'est pas de savoir ce que tu risques, c'est de savoir si tu décides d'être cohérent avec toi-même.
T'as beaucoup de chance.
Pourquoi?
Tu sais ce que tu seras plus tard? Peintre?
C'est toi qui as raison. Tu vis au présent. J'ai peur de passer à côté de ma jeunesse.
Après mai s'ouvre par une manifestation de lycéens qui tourne mal. Les CRS chargent des personnages qui vont nous accompagner tout au long du film. Olivier Assayas filme cette séquence avec une brutalité et une force qui évoquent le meilleur du cinéma d'action américain. La sécheresse du montage alliée à un filmage à la fois abrupt et sophistiqué nous plonge au cœur d'événements que nous idéalisons parfois avec le temps. Après un démarrage aussi puissant, Assayas prend le risque de décevoir. Et il faut bien avouer que sur le papier, Après mai fait un peu peur. Exploiter la veine nostalgique du début des années 70 sans verser dans les clichés semble une mission souvent impossible. Règle à laquelle Après mai ne déroge pas. On a droit donc aux manifestations radicales, à la libération sexuelle, au voyage en Italie, là en hommage à un film de Rossellini, aux fêtes Peace and Love, aux AG gauchisantes, à l'évocation de Mao. Rien ne manque à l'appel, peut-être hormis le trip en Inde, curieusement absent. Sur un sujet voisin d'ailleurs, un autre cinéaste s'était un peu cassé les dents, Bertolucci, avec un film innocent qui était, enfin, à mon sens, assez mauvais. Assayas en sort de toute façon bien mieux. Après mai, adopte un regard assez impressionniste et distancié sur un sujet autobiographique. S'il n'évite pas les clichés et un aspect fétichiste un peu forcé, Assayas les contourne, s'en amuse presque. Il ne livre pas une hagiographie sur une période bénie. Le discours nostalgique de vieux con genre « c'était mieux avant » est évité. Le personnage de Gilles, qui est un peu l'alter ego d'Assayas, est par ailleurs intéressant car il incarne toute la démarche du cinéaste. Engagé dans des causes gauchistes sans s'impliquer complètement, Gilles choisira la voie de la peinture et enfin du cinéma pour exprimer son désir de liberté et d'émancipation. D'ailleurs, dans une des plus belles scènes du film, sur un morceau très beau de Nick Drake, Gilles se livre à la peinture et l'on sent qu'il est enfin lui-même, alors qu'il semblait jusque-là un peu loin, absent. Assayas se sert d'une période historique pour dresser en fait le portrait plus généraliste d'une jeunesse tiraillée entre le désir de révolte, le besoin d'amour et l'épanouissement personnel, ici à travers la création. Il s'adresse d'ailleurs à tous les gens qui ont encore un peu 20 ans et livre sans doute son plus beau film depuis fin août, début septembre. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent bien le travail critique d'Assayas au Cahier du cinéma, la fin où l'on le voit travailler sur une série B fantastique n'a rien d'étonnant. Il fut parmi les critiques dits sérieux, l'un des plus ardents défenseurs de la série B. Bon là, je retombe un peu sur mes pattes parce que même en parlant d'un film comme Après mai, j'arrive à évoquer le cinéma bis puisqu'on voit un Minotaure dans un costume. Voilà. Seul bémol peut-être au film, je trouve que les interprètes sont parfois un peu limites. Ils ont un petit côté un peu dandy comme ça.
Ils sont tout jeunes, hein.
Mais...
aucun rapport. J'avais entre le fait qu'ils soient jeunes et le fait qu'ils soient
Je leur cherche des circonstances atténuantes.
Non, ils sont pas mal, rôle, un peu transparents. Voilà. C'est peut-être le défaut, hormis Lola Creton, qui est très très bien dans le film.
Merci Manu en tout cas de t'être écarté un peu de la série B, mais tu vas revenir un peu plus tard dans l'émission avec Schizophrénia. Et on passe au jeu.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Oui, on passe donc au blind test consacré aux acteurs devenus réalisateurs, alors, sachant que ça peut aussi se décliner au féminin. Voilà, et on commence tout de suite avec le meilleur exemple qui soit, je pense.
Qu'est-ce que vous lui voulez, les négros ?
Négro ?
Quoi ?
Fiche-moi le camp d'ici, sale blanc, sinon tu risques d'avoir des ennuis. C'est un conseil que je te donne. Fais chier, ce chenal.
Vous avez remarqué comme parfois on peut tomber sur le genre de personne qu'il vaut mieux pas faire chier. C'est moi.
T'es complètement cinglé, le vieux. Allez, débarrasse.
Fous-moi le camp d'ici, sale blanc, avant que je te botte ton vieux cul ratatiné.
Faut pas le faire chier. Alors ? Bruno a déjà trouvé, en fait, en régie, c'était Grand Torino, du coup.
Clint Eastwood qui refait un nouveau film, encore.
Oui, donc, de toute façon, il en fait un par an. Ouais. D'ailleurs, ouais. Je sais pas si c'est forcément une très bonne chose, mais bon, Grand Torino, en l'occurrence, c'était pas trop mal. Maintenant...
Pourquoi nuancer bon, comme ça
je, d'accord, Parce d'accord, qu'il y avait okay. certaines choses que je n'aimais pas spécialement dans okay. le film. On passe maintenant à un exemple féminin.
Merci. J'ai bien fait de l'inviter. Je suis très contente.
T'as vu ?
Non, pas encore, mais... Voilà, on l'a vu là.
Can I have some champagne ?
Qu'est-ce que vous faites là ?
It's your friend Antoine. Il m'avait dit de venir. Bonjour. Bonjour. Ça va?
C'est du vin.
Thank you. Et there is an incredible...
En français.
Il y a un monde incroyable. Mais il est connu comme peintre.
Ah, monsieur Castella.
Ah, bonjour.
Alors, ça vous plaît?
J'ai pas regardé encore.
C'est qui, lui? Tu le connais?
Non.
C'est charmant, hein?
J'aime pas les moustaches, de toute façon.
Alors, dans cet extrait, la réalisatrice ne joue pas, mais c'était le goût des autres. Ah, voilà. Oui. Et là, c'était Jean-Pierre Bacri qui essayait encore une fois de draguer sa prof d'anglais avec son lamentable accent et sa lamentable moustache aussi. Et on revient maintenant côté américain.
Et je crois avoir trouvé alors qu'il est le secret de mon bonheur. Une vie tranquille et retirée du monde à la campagne, avec la possibilité de me rendre utile pour les gens auxquels il est facile de venir en aide, et qui n'ont jamais été habitués à recevoir. Et le travail qui, espérons-le, peut avoir son utilité. Puis le repos, la nature, les livres, la musique, l'amour de son prochain. Telle est ma conception du bonheur.
On a trouvé.
Manu avait trouvé en premier, c'était bien Into the Wild de Sean Penn. Alors, dernier extrait, maintenant, à nouveau, un metteur en scène français.
Docteur, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de frapper votre femme ? Bon, je répète ma question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de frapper votre femme ?
Non, mais ça va pas, ou quoi ? Hein ?
On est tous passés par là, docteur. Une baffe, c'est pas un crime. Les affaires de cœur, c'est même plutôt naturel, non ?
Non, c'est pas naturel, non. J'ai jamais frappé ma femme. Vous comprenez ce que je vous dis, là, ou non ?
Docteur ?
Vous pensez que c'est moi qui ai fait ça ?
Ah, Guillaume Can... Oui.
Oui.
Oui, mais j'ai plus.
C'était François Cuisé, là, oui. Qu'on entendait parler face à Berléand, et c'était Ne le dit à personne.
Ne le dit à personne.
Désolé pour les petits.
Oh, bah oui.
Oui.
Il faudra revoir sa copie la prochaine fois.
Oui, oh, moi. Bon. En tout cas, je vous ai proposé un blind test extrêmement simple parce que j'avais vu que vous avez été un petit peu lamentable sur le blind test James Bond. Mmh. Donc je me suis dit, là, on va faire facile. Hein.
Mais là, alors, on peut, finalement, on peut en faire... c'est fini, là ? Oui.
C'est fini, mais après, côté américain, bien sûr, je n'ai pas parlé de Ben Affleck, George Clooney, oui. Ron Howard, Robert Redford, enfin, et
voilà,
j'en
mais
passe.
On peut le garder pour une prochaine fois, c'est ce que j'allais dire, en fait.
Ah enfin, bah, des ça blind y est, trop tard, ça. J'ai dit que non.
Oui, mais on va le faire dans deux mois.
Et côté français, oui, il y en a aussi beaucoup, y compris des femmes comme Mélanie Laurent.
Voilà.
Ah oui, c'est vrai, comment je peux oublier Jaline Lespère.
Non, mais il y en a plein, en fait. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est Cinérama, c'était le petit jeu. Peut-être qu'un jour, on
fera gagner des places.
On fera gagner des places. Oh, oui. C'est un projet, chers auditeurs. La suite.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Sur Divergence FM.
Après Rec, Paranormal Activity, Redacted, Devil Inside ou encore Chronicle, voici un nouveau film de fan footage avec End of Watch. Mais si des films comme Rec ou Devil Inside cherchent tous les moyens pour orchestrer des plans forcément enregistrés par une caméra retrouvée sur les lieux du drame, dans End of Watch, cette règle est contournée, car si nous voyons bien des images venues de caméras posées par l'un des flics sur les uniformes ou d'autres images venues d'un caméscope ou même de la voiture, d'autres plans sont pris d'un tout autre point de vue. C'est donc un peu le bazar, mais un bazar organisé et pense-t-on pour l'action. Alors pour faire simple, l'histoire d'End of Watch se résume finalement à peu de choses. On suit deux coéquipiers, un blanc palo et un mexicain, pendant leur service avec quelques excursions en dehors des heures de travail. Policier dans un des quartiers les plus rudes de Los Angeles, il voit en quelques semaines plus de crimes sordides qu'un policier de Santa Barbara en une vie.
Vous avez enfreint la loi.
Tu fous le camp ou je t'explose la tronche ?
Je suis là pour vous arrêter.
Menotte-le. Ça va par terre ?
Ça va. 13 X-Ray, 13 Code 4, le suspect a été appréhendé. On patrouille entre ici et Newton, l'un des secteurs les plus durs de Los Angeles.
Oui, le 13 porte bonheur.
Surveillez la rue. Assurez-vous qu'aucun connard ne débarque ici et essaye de nous descendre.
L'originalité d'End of Watch tient bien évidemment dans sa mise en image, un montage syncopé qui multiplie les axes de prise de vue, les rapports de distance et même la colorimétrie, car on perçoit la différence entre une micro-caméra subjective, une autre à infrarouge planquée dans la voiture et celle qui a servi à changer les points de vue donc pour une vision plus conventionnelle. Cette vision embedded, comme disent les Américains, ou embarquée, comme diraient les Français, est assumée, car End of Watch ne fait pas dans la finesse. On est clairement du côté des policiers, sans nuance aucune, et face à des méchants méchant gang mexicain prêt à tout pour quelques poignées de dollars de plus. Une vision un peu gênante qui laisse peu de place à la distance. Si bien qu'End of Watch de David Ayer, qui a été le scénariste de Fast and Furious, se contente de devenir un peu plus qu'un portrait de la police des vilains quartiers, un film d'action où les crimes s'enchaînent jusqu'à l'abominable, tandis que la relation entre les deux coéquipiers nous emmène l'histoire de souffler un peu dans leur vie privée. Pour le Mexicain, c'est la famille. Pour le Blanc-Bec, interprété par un très bon Jack Gyllenhaal, on dit comme ça ?
Jack Gyllenhaal, je veux dire.
Hall. Donc, qui a joué dans Source Code ou Denis Darko, lui, il propose un questionnement sur le sens de la vie amoureuse, rien que ça.
Je suis le destin avec une plaque et un flingue. Je protège les proies des prédateurs. Les bons des méchants.
Allez, bouge, bouge, bouge!
Nous sommes la police.
Il y a un contrat sur vos têtes, les gars. Vous êtes blacklistés.
On est flics, c'est normal. Tout le monde veut notre peau.
On l'entend avec cette bande-annonce quand même. On se demande pourquoi la production n'a pas eu de financement de la police de Los Angeles. Car ça peut faire naître des vocations de policiers chez le jeune spectateur. Alors un seul point de vue, malgré la diversité des plans, c'est ce qu'on retient d'End of Watch, qui sans être un mauvais film garde une forme tape à l'œil qui peut être repoussante, tellement certains plans vous sautent aux yeux. Le film se partage entre dialogues sérieux et anecdotiques et interventions musclées. On peut quand même apprécier bien la place qui nous est laissée dans la voiture de police où se déroulent beaucoup de discussions, d'autant que la relation entre les deux coéquipiers n'est pas, elle, sans nuance. Ce film est encore projeté au Gaumont Multiplex. Alors malheureusement, moi je l'ai vu en version originale sous-titrée, il ne l'est plus. Il est aussi au CGR. Voilà, c'est sur Montpellier.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Passons donc à la sortie DVD et Blu-ray avec Schizophrenia, alias Angst en autrichien. Dans le petit monde du cinéma, il existe des films que l'on rêve de visionner depuis des lustres. Schizophrenia, pour moi, en fait partie. D'ailleurs, je suis toujours passé à travers pendant des années. Mais il arrive que le cinéphile le plus averti passe à côté de films essentiels ou jugés comme tels. C'est donc avec une curiosité nouveau-née que je m'apprêtais à déguster enfin Angst avec un mélange étrange d'appréhension et d'excitation. Eh bien, quelle claque ! Une fois n'est pas coutume, le terme culte là n'est absolument pas usurpé. La puissance formelle de Schizophrenia emporte tout sur son passage et transcende littéralement un récit morbide, mais classique dans sa construction. Un homme visiblement perturbé sort de prison, il n'a qu'une obsession en tête, tuer à nouveau. Il se réfugie dans une maison isolée et va s'en prendre aux trois résidents des lieux. Une vieille dame malade, son fils handicapé moteur et sa jolie fille. Oui, tout un programme. Le scénario minimaliste tient, il est vrai, sur une feuille de papier, mais le traitement infligé est d'une telle force créatrice qu'il enterre définitivement à tous les films consacrés à la personnalité d'un psychopathe, y compris des réussites exemplaires comme Henri, portrait d'un serial killer de John McNaughton ou Clean Shaven de l'excellent Lodge Kerrigan. Véritable introspection à l'intérieur du cerveau malade d'un schizophrène, Angst vous hypnotise pour ne plus vous lâcher vers un voyage au bout de l'horreur aussi fascinant que repoussant. Impossible de détourner les yeux devant les crimes horribles perpétués par le protagoniste principal. Comme si dès les premières images, on nous avait drogués pour rester scotchés devant un spectacle inconfortable. L'utilisation d'ailleurs de la voix off est une grande trouvaille. Douce, envoûtante, réfléchie, elle est un peu l'antithèse du corps hystérique, incohérent, en surchauffe qui s'agite à l'écran. Cette masse corporelle prise de convulsions et de panique perpétuelle. Et pourtant, cette voix et ce corps font qu'un. La voix off, qui ne raconte pas ce qui se passe à l'écran, provoque une forme d'empathie un peu déroutante. D'ailleurs, le choix du réalisateur de réduire au minimum les dialogues, ne laissant planer sur son film que cette voix intérieure, rend finalement subjectif tout ce à quoi nous assistons. D'autant que la mise en scène aérienne, comme dans un rêve éveillé, est d'une stupéfiante beauté, tranchant ainsi avec le réalisme complaisant du propos. En fait, grâce à l'utilisation novatrice de la Luma, la caméra est en mouvement constant et le recours systématique à la plongée provoque une atmosphère anxiogène écrasante. La technique utilisée inédite, elle sort tout droit de l'imagination en ébullition du chef-op, je ne sais pas si je vais arriver à le dire, Zbigniew Rybczynski. Oui, a utilisé un système de réflexion par miroir pour filmer Angst en entier. Cette expérimentation formelle nous gratifie de plans d'une incroyable audace et surtout jamais vue ailleurs. Un coup de génie qui apporte une distanciation un peu métaphysique que ne renierait pas Stanley Kubrick. La caméra devient alors une sorte d'espace mental étouffante. la musique électronique de Klaus Schulze renforce cette ambiance irréelle et cauchemardesque. Kargl sonde de l'intérieur la folie d'un homme, livre au public ses pensées les plus noires, mais aussi les plus humaines. La psyché malsaine de ce tueur, pathologique, finit par contaminer l'écran. On comprend dès lors la fascination opéré par ce film sur justement Gaspard Noé, qui reprendra la même structure narrative dans Seul contre tous, et puis pour l'aspect visuel, il réutilisera d'ailleurs le système de miroir pour Enter the Void. Donc le film est disponible chez Carlotta, en Blu-ray, en DVD, et propose en plus des bonus absolument passionnants, notamment sur une explication assez fascinante du chef-op avec
du procédé
de la caméra par miroir.
Plus un petit cours pour prononcer le nom du chef-op, non ?
Non, il n'y a pas un petit bonus. Non, parce que c'est un peu compliqué. Mais c'est plus compliqué quand c'est écrit que finalement le prononcer. Ribzinski. Ouais.
Non, mais tu t'en es très bien sorti. Nous n'allons pas faire de chronique sur Comme des frères, on le fera la semaine prochaine, mais par contre, on va parler de la chasse.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Sur Divergence FM.
Et on passe donc à la chasse de Thomas Vinterberg. Alors Lucas, joué par Mads Mikkelsen, prix d'interprétation justement de Cannes 2012 pour ce rôle, travaille dans un jardin d'enfants et essaye de se sortir d'un douloureux divorce. Un jour, la très jeune fille de son meilleur ami, un peu trop attachée à lui, invente une histoire d'attouchement. Convaincue que les enfants ne mentent pas, la directrice, puis les parents et bientôt toute la ville finissent par croire à la culpabilité de Lucas. Dans cette ville calme, pardon, où la chasse est une institution, c'est très vite le héros qui se retrouve traqué, pris dans un engrenage auquel il ne comprend rien, à la merci d'une justice sommaire et improvisée par ses anciens amis. Construit autour des fondements d'une rumeur puis centré sur ses répercussions, le film s'attache surtout à la descente aux enfers du héros, égrené sur plus d'une année, et se conclut de façon abrupte par une fin ouverte et sombre. Le sujet est très actuel, trop même, puisqu'il nous semble avoir déjà vu bien des films semblables à celui-ci. La faute sans doute à un style très épuré, presque banal, proposé par un Thomas Vinterberg que l'on a connu beaucoup plus inspiré dans sa période dogmatique, et qui se contente là d'une mise en scène parfois consensuelle. Alors celle-ci aura au moins l'avantage de laisser toute la place au talent de Mads Mikkelsen. Le Danois démontre une fois de plus sa large palette de talents et prouve, si le doute subsistait, qu'il n'est de toute façon jamais mauvais, hein, qu'il joue un viking ou un dealer chez Nicolas Winding Refn, un méchant dans James Bond ou même Igor Stravinsky. Pour Thomas Vinterberg, c'est un retour en demi-teinte. Débarrassé de ses multiples quêtes autour de l'image, il se concentre sur les turpitudes des relations humaines et sur les rapports entre communautés et individus, proposant un film à la réflexion passionnante à défaut d'être optimiste. Si sa réalisation semble un peu impersonnelle, il rend néanmoins au paysage du Danemark l'hommage que leur beauté mérite, et malgré une lourde métaphore filée sur le thème de la chasse, il réussit à nous captiver et à nous interroger. C'est plutôt un bon film. Hein. Enfin, je le conseille surtout pour Mads, en fait.
D'accord. Et puis les images du Danemark, donc c'est recommandé. Un film magnifique. Recommandé par l'Office du tourisme
magnifique.
Du Danemark.
Ah non, c'est...
Ah mais si, tu dis que ça rend hommage à la beauté du Danemark.
Non, mais disons que les paysages danois ont vraiment... Mais non, disons que c'est vraiment un personnage, en fait, à part entière dans cette histoire, puisque tout tourne autour de la chasse, donc autour des battues dans la forêt, avec l'automne, en fait, avec les saisons qui passent, et toujours dans cette forêt... Et des gens qui vivent en communion avec la nature. Ouais. Voilà.
Mais l'affiche est assez emblématique d'ailleurs, hein, parce qu'on le voit dans la forêt, il me semble. Hein.
Ça, non, pas du tout.
On le voit un peu hagard. Non, bon.
C'est une des scènes finales. On le voit se retourner en fait vers son meilleur ami, justement. D'accord. Et on voit son visage en gros plan.
Merci pour ces
précisions. Voilà, ça passe en tout cas au Diagonal, je vous le conseille.
Merci. Et maintenant, c'est la fin.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes.
Mais on termine avec l'agenda. Alors, il y a le dernier film de Larry Clark qui est sorti hier soir, Marfa Girl. Alors, il sortira pas dans les salles, mais seulement sur Internet et exclusivement sur son site larryclark.com. Le cinéaste américain, auteur de Kids, Ken Park ou encore Bully, ne supporte plus les producteurs et a envie de dire à Hollywood d'aller se faire foutre. Donc, je précise c'est sa pensée. Il a dit « I wanted to say fuck you to Hollywood ». Donc, c'est ce qu'il a dit lors de la conférence de presse du film. Il a ajouté « Si tout le monde regarde les films sur son ordinateur, télécharge les séries télé, passe sa vie sur YouTube, si tous les jeunes passent leur temps devant leurs ordinateurs à organiser leurs soirées, draguer les filles, alors allez directement à eux, proposez-leur les films en ligne, dont acte. Et donc Marfa Girl est disponible pour 6 dollars, 4,70 euros depuis hier soir minuit sur son site. On passe maintenant à l'actualité sur Montpellier. Le 20 novembre, on est le 21 d'ailleurs, c'est ça ?
Oui.
Ouais, je m'en sors très mal. Donc on commence avec, avec le 22 novembre à Fontignan. Le cinéma Ciné Mistral propose à 20h30 la projection du film J'aime travailler de Francesca Comencini, suivi d'un débat animé par la CFDT. Et j'imagine qu'il y aura des cartes à dispo pour adhérer à la CFDT. Le 23 novembre, le cinéma Diagonale propose à 20h10 la projection de Tango Libre de Frédéric Fontaine, suivi de débat en présence donc du réalisateur. Et puis de Sergi Lopez qui sera là, qui est un grand ami du Diagonal, et je pense qu'on aura une interview de Sergi Lopez parce que Marine, tu seras présent le soir, c'est ça hein?
Oui, bien
confirme,
sûr.
Confirme. Ensuite, le cinéma Nestor Burma et l'association Montpellier Cuba Solidarité propose à 17h30 la projection du film 7 jours à la Havane, qui est un film collectif hein, donc avec Benicio Del Toro, il y a Gaspar Noé. Ah, il y a Kusturica, ok. Il y a Laurent Cantet aussi, et puis il y a Médem. Gaspard Noé, voilà, ils sont beaucoup. Donc c'est histoire d'avoir différents points de vue sur cette île singulière. C'est Michel Princet, avec son association Cuba Solidarité, qui propose ça au Nestor Burma. Le film est suivi d'un débat, évidemment, pour parler de Cuba, et puis d'un apéritif musical, ce qui ne gâche rien. Donc ça, c'est le 24 novembre, c'est à 17h30. Et le 24 et 25 à Montpellier, l'association So Bollywood propose les journées du cinéma indien et Bollywood pour donc découvrir ou redécouvrir sur grand écran les œuvres du cinéma indien avec des films, des conférences et des expos. Et le tout, eh bien, c'est au centre Rabelais et ce sera effectivement en musique. Voilà, parce que c'est de la radio Marine, mais oui. Marine se dandinait et effectivement, puisque normalement les projections Bollywood, c'est plutôt des projections animées et dansées.
C'est l'or! Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
On parlera comme des frères donc la semaine prochaine. On parlera aussi largement du Festafilm, le 5e festival lusophone.
Oui, rendez-vous pour une nouvelle émission toujours aussi embedded, n'est-ce pas Vincent, j'ai envie de dire.
Embedded.
Et à suivre l'émission 24 notes secondes consacrée aux adaptations.
Merci, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien des combines et de la merde. Y a pas de saint, y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.